Et si tu n'étais plus jamais débordé par une seule émotion, ni celle de tes enfants, ni les tiennes, comment ce serait pour toi? Je te donne rendez-vous le samedi 16 septembre à 10h30 pour une masterclass offerte sur ce sujet-là. Le lien d'inscription est dans la bio et en légende de cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute, à très vite. Bonjour! Bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Un papa que j'ai rencontré hier au Salon des Entrepreneurs qui m'a proposé d'avoir mon point de vue sur son fils de 4 ans qui lui dit « Allez, vas-y, tape-moi ». Donc, entre la bagarre, entre la demande d'attention, que faire quand notre enfant cherche le contact physique par les coups, par la violence physique, principalement. Et donc, le papa me dit, moi, avec mon fils, des fois, je m'emporte, je fais des petites tapes, je le punis, je lui crie dessus. Donc, ce sont des choses que j'entendais tout le temps, hein, quand j'étais en maternelle, en REP+. Donc, jusque-là, rien de nouveau pour moi. Mais il dit, par contre, ce qui est bizarre, c'est que mon fils, après, quand je suis un peu énervée, que lui, il est un peu énervé, il dit, vas-y, tape-moi. Donc, je l'ai invité, je l'ai questionné, hein, vous connaissez la pratique, hein, nous, on avance par petits pas et on essaye de faire prendre conscience à l'adulte de ce comportement qu'on trouve étrange, nous, en tant que parents, à une logique différente dans la tête de notre enfant. Lui-même, il est en train de réfléchir à nourrir ses besoins en utilisant des stratégies parfois maladroites. Donc, ce petit garçon de 4 ans qui proposait à son père de le taper, c'était pour lui une manière d'avoir de l'attention, de l'affection, de la connexion. Pourquoi c'est maladroit? Parce que le petit garçon se dit, si je fais des bêtises et si je provoque, je vais donc avoir en retour l'attention de mon papa, même si c'est par des cris, même si c'est par des tapes, même si c'est par des coups. Alors ça peut vous paraître bizarre hein, d'entendre ça, bien entendu. Mais c'est une manière détournée d'avoir un retour de la part de l'adulte. Pourquoi? Parce que ça a pu avoir lieu plusieurs fois en amont, que les moments où on s'occupe beaucoup de lui, c'est les moments où il fait des bêtises, où il a un comportement débordant. Donc pour toute cette thématique des bêtises, je vous invite à écouter l'épisode 42 et l'épisode 45 qui parlent des bêtises et des punitions. Ensuite, cette notion, c'est que ce petit garçon, il a 4 ans, donc il est en pleine immaturité émotionnelle, comme tous les enfants de 4 ans. Donc, quand il pose des mots, il pose des mots qu'il a entendus. Il pose des mots qu'il a compris avec son niveau de lecture de la vie. À 4 ans, il a une compréhension partielle de ce qu'il voit. Si il entend que c'est en se bagarrant qu'on montre son amour, entre hommes notamment, entre papa et fils, il va croire que montrer son amour, ça passe par la bagarre. Donc ça va être à nous adultes, papa et maman, de dire à nos enfants de quelle façon on peut montrer son affection, de quelle façon on peut montrer son amour, en faisant des câlins, en faisant des chatouilles, des guilis, des massages, en passant par le corps souvent, mais ça peut passer par des mots, se dire des petits mots doux, se faire des chansons qu'on aime bien, se proposer des choses qui nous font du bien. Et la différence, c'est que si les enfants n'ont pas devant eux un éventail d'activités qui leur proposent des stratégies pour nourrir leurs besoins, ils vont s'en tenir à la seule qu'ils connaissent, à celle qui marche. Donc si à chaque fois que votre enfant fait une bêtise, vous criez dessus et vous intéressez à lui que au moment où il fait sa bêtise, bah, il peut continuer à faire des bêtises pour que l'intérêt se porte sur lui. Est-ce que vous voyez le lien de cause à effet? Donc vous pourrez me dire en message privé si ça vous parle, cette idée que l'enfant voudra de l'attention, voudra de la connexion, ça fait partie de ses besoins humains d'attirer l'attention de l'adulte, du parent, de la maîtresse, de l'animateur, de la grand-mère, de la babysitter, c'est logique. Ça ne va pas être toutes les heures, ça ne va pas être toutes les minutes. Mais dès qu'il va être en manque d'attention perçue, il n'y a pas un dosage précis et un pourcentage précis, mais quand lui il va percevoir qu'il manque d'attention, qu'il manque de connexion, qu'il manque d'affection vraiment, il va chercher l'interaction avec son papa, il va chercher l'interaction avec son animateur, avec sa maman, d'une manière parfois maladroite. Donc le décodeur des comportements, si vous avez l'impression que votre enfant vous cherche, si vous avez l'impression que votre enfant vous provoque, c'est juste sa manière à lui, maladroite, de tester si vous êtes disponible pour communiquer, pour interagir, pour lui porter de l'attention. Un des outils que je propose aux mamans, c'est d'anticiper, une fois de plus, ces moments et de créer vous-même des temps de qualité qui vous conviennent à vous, au moment où ça vous convient, vous, en tant qu'adulte, et en observant quels sont les besoins de votre enfant à ce moment-là. Si votre enfant est dans un passage un petit peu agacé, où il a besoin de beaucoup bouger, ben, ça peut être le moment d'aller dans le jardin, d'aller courir, jouer au ballon, faire la balançoire, faire quelque chose d'actif qui décharge l'énergie. Si votre enfant est dans un moment plutôt fatigué, plutôt câlin, de mettre une musique douce, de prendre votre enfant sur les genoux, de le bercer, de lui caresser les cheveux, et de remplir tous les deux votre réservoir avec ce temps de qualité, ce tequil que vous allez retrouver dans le podcast, c'est l'épisode 8. Quand on crée des temps de qualité avec les besoins de notre enfant et nos besoins à nous, on remplit à la fois le réservoir affectif de notre enfant et nous, on prend au passage de la connexion, de l'échange, de la douceur, de l'harmonie dont on a besoin aussi en tant que parent. Et ce qui fait que ça évite les crises et ça évite les demandes d'attention désagréables. Un petit enfant qui viendrait faire bêtise, action désagréable, bêtise, action désagréable ou caprice, hein, comme c'est noté dans les magazines ou dans certaines familles, ce serait uniquement pour attirer l'attention, l'amour, l'affection et l'interaction avec l'adulte. Si l'enfant ne réagissait pas dans un coin, jamais, ne chercherait aucune interaction avec l'adulte, ce serait encore plus bizarre. Ça m'est déjà arrivé en classe et ça m'a déjà affecté beaucoup de voir des petits enfants de 3-4 ans ne chercher aucune interaction et rester sur le banc les yeux baissés. Alors qu'un enfant qui fait avec un petit œil en coin une bêtise au bout de la classe en renversant le matériel, c'est une quête de dialogue. C'est une mise en situation de comment va réagir l'adulte. Est-ce qu'il va venir me voir? Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'il va me gronder? Est-ce qu'il va me punir? Est-ce qu'il va me taper? C'est chercher à comprendre, à mettre du sens et à reprendre le pouvoir sur les actions de son quotidien. Donc je suis moins inquiétée par un enfant qui va enchaîner des comportements inappropriés, inacceptables, que vous n'aimez pas, que par un enfant qui ne cherchera aucune action. Parce que l'enfant qui ne cherchera aucune interaction et aucune connexion, ça veut dire qu'il a renoncé et qu'il est carrément en baisse d'estime de lui maximale. Donc c'est les petites pistes que j'ai proposées au papa hier au salon qui me disaient que son fils, vraiment, quand il savait plus quoi dire, lui disait « vas-y, tape-moi, vas-y, tape-moi ». Parce qu'il avait traduit de manière maladroite que taper son enfant était une marque d'attention. Et vous voyez la dérive hein, que ça peut faire très tôt. C'est qu'un enfant qui serait tapé à 1, 2, 3 ans penserait que c'est un mode, un geste d'amour et d'affection. Et donc la suite pour ces relations est quand même tragique. Ça veut dire que pour avoir un mode d'affection et d'amour, il pourrait s'entourer de personnes qui soient violentes, qui soient dans une intention toxique. Donc tout ça, ça boucle avec des sujets que vous connaissez déjà sans doute. autour de l'attachement, autour de l'amour inconditionnel et autour des stratégies que nous, en tant qu'adultes, on utilise pour élever nos enfants, pour poser le cadre, pour définir les repères et l'autorité. Sur ces deux sujets-là, vous avez l'épisode 99 qui parle d'autorité par la coopération et vous avez l'épisode 101 qui parle de comment accompagner les frustrations de nos enfants. Nos enfants, quand ils nous donnent un pic qui nous fait réagir, c'est intentionnel, oui, mais ce n'est pas la traduction qu'on imagine de prime abord. C'est « je viens chercher ce que tu vas me donner comme réaction en espérant que ça nous connecte tous les deux, en espérant qu'on en ressorte tous les deux dans une communication indirecte, verbale, gestuelle, douce, forte ou confrontante. » Et j'ai mis du temps à le comprendre en classe, hein, parce qu'au début, comme toute jeune enseignante, je me disais « oh là là, mais lui, il est pénible !» Mais il est pénible pourquoi ? Il est pénible parce qu'un de ses besoins n'est pas nourri sur sa rayure d'arc-en-ciel. Est-ce que c'est un besoin d'attention ? Est-ce que c'est un besoin de dialogue, d'écoute, d'empathie, de soutien, de détente, de mouvement, un besoin de paix, un besoin de silence ? Et toute cette démarche-là, on ne peut pas avoir la réponse toute faite. Il n'y a aucun moyen de savoir concrètement ce dont notre enfant a besoin sans l'observer. Donc quand c'est votre propre enfant, quand vous allez l'observer beaucoup, vous allez savoir de quoi il a besoin parce que vous l'observerez tous les jours. En classe, on avait un peu l'habitude de savoir de quoi avait besoin tel ou tel élève parce qu'on observait les répétitions au jour le jour, semaine après semaine. Est-ce que c'est un élève qui a plutôt besoin de concentration, de calme, d'espace, ou alors il aime interagir avec ses camarades, partager du matériel, il est à l'aise sur l'art, il est à l'aise sur la motricité. Donc il y a beaucoup d'épisodes où je vais vous partager ça, d'observer votre enfant au maximum dans ses comportements, et quand un comportement vous paraît inadapté, de remplacer inadapté par « pour l'instant », il ne sait pas faire autrement pour nourrir un de ses besoins et il pense que ce comportement-là est la meilleure stratégie. L'éventail de stratégies, qui est le quatrième outil que j'ai créé, qui part de votre arc-en-ciel de besoins pour créer un de vos tequils, c'est quelles sont les activités qui peuvent nourrir l'un de mes besoins afin que mes flammes aillent vers du plus agréable. Pour ce lien entre les trois outils, je vous renvoie vers l'épisode 55 si vous voulez mieux comprendre le lien entre les flammes d'émotion dans votre cheminée des émotions, les besoins qui clignotent sur votre arc-en-ciel des besoins, et puis comment on co-construit un temps de qualité à la fois pour que mes besoins de parents soient nourris et que les besoins de mon enfant soient nourris également. Les mamans en classe qui ont commencé à installer des temps de qualité en ce sens, ça pouvait être un temps calme où on dessine ensemble, parents-enfants. On se met sur la table, on sort les crayons, on sort les feutres, on sort les gommettes et un temps de créativité sur la table tous ensemble. On peut se mettre un petit fond de musique calme et pendant 20 minutes peut-être, on colorie, on écrit, mandala, graphisme et on prend un temps de qualité. Ce sera un tequil calme. Et puis d'autres mamans ont préféré partir sur du tequil. On met la musique à fond, on danse, on saute, on tourne, on fait des farandoles, on fait la ronde, on est à 2, 3, 4, suivant le nombre d'enfants, si papa participe ou pas. Et pour elle, ça a été le temps de qualité qui a changé l'énergie de la maison. Ça a désamorcé les tensions, ça a enlevé les temps de crise. Parce que au moment où on se connecte, on sourit, on danse, on saute sur la musique, c'est une décharge d'endorphines, c'est une décharge d'hormones. C'est une décharge de sérotonine et on est bien. Notre enfant est bien, nous on est bien parce qu'on partage un moment de connexion, on est en pleine présence, oui, on a encore des choses qui tournent en sous-tâche avec Léopold le hamster qui nous dit « t'as pas fini ton dossier pour demain, la vaisselle n'est pas faite, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ça va rester là. Mais ce temps de qualité que je vous invite à faire depuis le tout début du podcast, depuis l'épisode 8, c'est que vos besoins vont être nourris par ce temps de qualité à vous, donc vos flammes agréables vont se renforcer dans votre cheminée, ce qui fait que momentanément vos flammes désagréables vont baisser un tout petit peu en intensité, elles seront encore là, mais elles vont baisser en intensité, et ce moment de connexion, c'est des paillettes de joie, c'est des paillettes de souvenirs que votre enfant prend comme geste d'amour, prend comme amour inconditionnel. Et comme son réservoir affectif est nourri, comme il se sent écouté, aimé, qu'il est en connexion, qu'il adore passer ce moment de joie avec vous, il sera moins tendu, il sera moins stressé et il y a moins de risques de débordement sur la suite, sur dans un quart d'heure ou après le repas ou de s'opposer pour pas se brosser les dents parce qu'il aura eu ce grand moment de connexion avec vous. Donc construire des temps de qualité adapté à son besoin, parce que vous l'avez observé, parce que vous savez un petit peu ce qu'il aime comme goût, vous connaissez un petit peu ses activités préférées, s'il est plutôt moteur, s'il est plutôt artistique, s'il est plutôt seul à seul avec vous, ou s'il aime être avec tous les frères et sœurs et avec papa. On peut aussi se dissocier dans la famille le samedi et prendre chacun un enfant et faire chacun un tequila séparément. Ou on peut faire un tequila à 4 ou 5. Je laisse vraiment ça libre à chacun de faire dans sa famille ce qui lui paraît le mieux. Et c'est vraiment dans ma pratique très important de vous transmettre l'outil de la cheminée des émotions pour que vous puissiez vous l'approprier avec vos flammes actuelles, de vous approprier l'arc-en-ciel des besoins pour décoder ce qui se passe en vous de frustration, d'impuissance, de colère, de tristesse, parce que la mise en relation de ces deux outils va vous donner des clés d'autonomie. Et l'outil du tequila, donc le troisième outil que vous avez découvert sur ce compte, va être encore plus sur mesure. Et je vous avais proposé en story une fois de choisir si vous vouliez un atelier sur comment construire cet tequila. Il aura lieu, bien entendu, parce que c'est un atelier qui va vous être très utile. Et je suis en train de le faire en travail individuel avec une des clientes sur un suivi long. Elle se rend compte que les tequila qu'elle commence à créer avec son grand et avec sa grande vont être assez nourrissant pour plusieurs rayures. Et donc, quand elle m'a partagé ça, j'ai trouvé ça amusant parce que vous allez avoir un petit catalogue sur place de vos tequils préférés en solo. Donc ça, c'est dans l'épisode 62. Vous allez avoir un petit catalogue aussi sur place de tequils en couple. Quelle est votre activité préférée en couple? Est-ce que c'est tranquillement posé devant une série Netflix quand les enfants sont couchés? Est-ce que c'est d'aller au squash le dimanche matin et de mettre les enfants chez les grands-parents? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment dans votre couple pour que à la fois vos besoins moteurs, vos besoins affectifs, vos besoins émotionnels, vos besoins spirituels soient nourris dans le couple aussi? Et ces petits catalogues que vous allez commencer à vous créer pour vous, pour le couple, pour chacun de vos enfants, ils vont s'affiner au fur et à mesure. Plus je vois mes clientes avancer et plus leurs tequils sont sur mesure, sont spécialisés. Et quand on crée des temps de qualité sur mesure, on est encore plus en train de faire redescendre nos flammes désagréables dans notre émotion. C'est encore plus rapide. Parce que, vous savez, quand on ne sait pas d'où vient le problème, quand on ne sait pas sur quel pied danser, sur une solution, quand notre enfant fait une crise, quand on se dispute avec notre conjoint, quand il y en a marre, qu'on est fatigué, à un moment, on commence à être en accumulation de flammes. Ça veut dire qu'on est à la fois triste de ne pas trouver la solution tout de suite, ce qui est normal, c'est un nouveau problème, donc il faut co-créer la solution. On peut être aussi triste parce que notre enfant, à ce moment-là, on aurait voulu qu'il ait un autre comportement. Donc là, on est en train de juger qu'il aurait dû faire autrement, ça ne nous rend pas service comme plan d'action. Mais en observant sa réaction, vous allez aller de plus en plus vite sur quelle est sa rayure qui clignote sur son arc-en-ciel de besoin. Quel est le besoin vraiment prioritaire pour votre enfant? Est-ce qu'il a un besoin de se renforcer dans son identité? Est-ce qu'il a besoin d'exprimer un choix sur sa rayure d'autonomie? Est-ce qu'il a besoin de comprendre? Est-ce qu'il a besoin de s'exprimer? Est-ce qu'il a besoin de se détendre? Ou est-ce qu'il a un besoin physiologique? Et là, vous allez aller de plus en plus vite en orientation sur son arc-en-ciel. Si vous sentez que c'est dans la relation que ça se joue, est-ce que vous pouvez mettre de côté votre priorité du moment et aller trouver un tequila de relation avec votre enfant? Ça peut être juste, ah bah viens sur mon bureau, je te montre ce que je suis en train de faire, je t'explique, comme ça tu vas comprendre. Et hop, on part dans un dialogue, dans une écoute, dans une connexion. Quand notre enfant du coup a un comportement qu'on juge inadapté, au lieu de passer un temps fou à discuter avec Léopold là, de nos pensées sur le comportement de notre enfant, on peut plonger directement en disant, est-ce que j'ai dans mon tiroir un temps de qualité déjà tout prêt pour que son émotion à lui, mon émotion à moi, soit nourri dans un temps qui va remplir le réservoir de chacun. Ce qui veut dire que vous allez aller beaucoup plus vite sur votre régulation émotionnelle de parent, en observant beaucoup plus vite quel est le besoin qui clignote dans le comportement de votre enfant, et en allant encore plus vite pour trouver l'activité qui va à la fois calmer votre enfant et le nourrir d'une façon plus adaptée, plus adéquate, parce que lui, la solution qu'il avait trouvée ne vous convient pas, vous auriez aimé qu'il prenne un autre axe. Et la maturité émotionnelle de votre enfant va se muscler parce que vous allez lui donner d'autres stratégies pour nourrir ces besoins-là. Quand vous allez lui dire « Ah, mais je comprends que tu es très agacé parce que tu voulais passer du temps avec moi. Moi, c'est important de finir ce dossier-là parce que je dois envoyer un email avant 21h. Donc, je finis mon travail et à 21h, je te rejoins et toi, tu choisis le livre qu'on va lire ensemble et on va avoir ensemble ce temps de qualité. » Donc, l'écoute de son besoin, l'expression de votre besoin à vous vont co-créer l'équilibre entre les deux arcs-en-ciel. Dans la parentalité positive, on oublie qu'il y a aussi les besoins du parent en jeu. On peut faire des contresens rapidement en disant « c'est les besoins de mon enfant en priorité absolue ». Sauf que les besoins de votre enfant sont très importants, hein, puisque les anciennes éducations oubliaient les besoins de l'enfant et c'était le parent la priorité surtout, et l'enfant rentrait dans le moule. Donc on est sorti d'un extrême à l'autre. Et vraiment, la parentalité empathique, c'est un lien entre les besoins de mon enfant. Je les connais, je les décrypte, je les nourris, dans la mesure où mes besoins de maman, de parent, sont aussi écoutés, entendus et nourris. Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que j'incarne auprès de mon enfant une façon de nourrir mes besoins au quotidien dont il va s'inspirer quand il va grandir, puisqu'on va être une figure d'attachement et un modèle de process. Il va nous observer tout au long de sa vie. Et la deuxième raison, c'est que si je m'oubliais dans mes besoins, comme c'est le cas de beaucoup de mamans, hein, la première fois qu'on est maman, il y a un moment où on ne pense plus du tout à aller faire pipi, à aller manger, à aller se doucher, à prendre l'air, à appeler une copine, parce qu'on est dans une vraie roue de hamster et que les besoins de notre enfant, le sommeil, la tétée, on est en mode « mon enfant, mon enfant, mon enfant ». Donc, il y a des mamans qui s'oublient à ce moment-là. Je ne juge pas, j'ai fait partie de ces mamans-là aussi. Pourtant, j'étais sensibilisée à cette question. Et avec la deuxième aussi, hein, comme quoi on peut avoir la théorie et complètement s'oublier dans la pratique. Et notre enfant, s'il voyait ça avec son filtre, hein, il pourrait croire qu'il est donc prioritaire sur toutes les activités et tous les besoins, que son désir est plus important que les besoins de sa maman. Donc, il serait complètement prioritaire sur toutes les décisions que la maman va prendre. Donc, non seulement ça va être bon pour vous de nourrir vos besoins, d'écouter vos émotions et de vous créer des temps de qualité en solo, donc épisode 62, en duo avec votre partenaire, épisode 41, et puis en société, avec vos amis, avec votre boulot, c'est aussi important que votre enfant voit que vous nourrissez vos besoins avec des stratégies différentes, avec un éventail différent d'activités qui sont sur mesure pour vous, parce que lui, ça lui apprend qu'il va pouvoir nourrir ses propres besoins sans les faire porter à sa maman, sans les faire porter à n'importe qui, sa future femme, son futur meilleur ami, etc. et qu'il va être autonome dans la régulation de ses besoins et de ses émotions. Donc, il y a vraiment un double intérêt pour votre enfant à ce que vous ne vous oubliez pas. Non seulement il va avoir une maman ou un papa plus épanoui parce qu'il aura pris soin de ses besoins à lui, mais en plus, vous allez l'incarner et donc, il va pouvoir emmagasiner cette régulation émotionnelle pour lui. Et donc, ce papa qui voulait savoir comment faire pour créer des temps de qualité avec son fils autre que « on se bagarre, vas-y tape-moi papa », je l'ai engagé à voir quelles activités lui feraient plaisir à lui en tant que papa et pourraient faire plaisir à son fils en tant que petit garçon de 4 ans et qu'à la fois les deux arcs-en-ciel soient nourris en même temps. Ce qui fait que vous, quand vous observez un comportement inadapté chez votre enfant, quand vous sentez de la frustration dans votre cheminée à vous, vous allez pouvoir mettre en relation quels sont les besoins qui clignotaient chez lui et qu'il a voulu nourrir avec cette action que vous ne trouvez pas adaptée et pour la remplacer par une nouvelle action. Et vous, qu'est-ce que ça a créé comme inconfort, mal-être, tristesse, anxiété, qui résonne sur un besoin aussi de votre arc-en-ciel à vous, que vous pouvez aller explorer. Et ensuite, créer une activité qui soit complémentaire avec son besoin à lui, votre besoin à vous, et que ce soit une activité qui vous convienne à tous les deux. Je vois aussi des mamans qui se forcent à jouer, qui se forcent à chanter. Si ça ne vous plaît pas, ces activités, ne les faites pas. Trouvez une activité qui vous plaît. Si vous aimez aller jouer au foot avec vos enfants, mais allez jouer au foot avec vos enfants. Ne vous forcez pas à quoi que ce soit que votre enfant sentirait comme une contrainte que vous allez vous mettre. Votre enfant, il a besoin de vous sentir épanoui, aligné, à l'écoute de ses besoins, mais aussi à l'écoute des vôtres. Et donc, sur les nouvelles parentalités que vous pouvez entendre dans les podcasts, sur les livres, sur les lives, autour de la parentalité bienveillante, de l'éducation positive, on met souvent en lumière comment faire pour notre enfant, mais on peut aussi mettre en éclairage que la maman, plus elle se sent bien, plus elle comprend sa régulation émotionnelle et ce qui la déclenche. C'est vraiment du jargon que vous allez retrouver dans le podcast ou dans les offres en individuel ou en collectif. Quand on sait ce qui nous déclenche dans le comportement de notre enfant, j'ai pas dit chez notre enfant, hein, dans le comportement de notre enfant, vous allez voir comment réagir sans subir. Et on l'a tous fait. Hein. On l'a tous fait de réagir à un comportement de notre enfant en disant ah, « c'est à cause de lui si je me sens comme ça ». Et vous voyez que les publications en ce sens là sur Instagram décorrèlent complètement le fait que le comportement de notre enfant n'est qu'un déclencheur indirect de l'état de ma cheminée intérieure. Je me sens triste, je me sens frustrée, je me sens perplexe, je me sens impuissante parce que je constate que l'action de mon enfant a révélé un besoin qui n'était pas satisfait chez moi. C'est l'action de mon enfant, ce n'est pas mon enfant. Donc, en général, il y a un petit point qui s'éclaircit d'un coup hein, dans les accompagnements, que ce soit dans les séances individuelles, que ce soit dans les discussions qu'on a sur Clubhouse, que ce soit dans les discussions plus longues, hein, sur les séances plus longues. Mais quand les mamans se prennent la responsabilité uniquement de leur flamme et pas de celle de leurs enfants, et commencent à prendre soin de leurs besoins à elles, et pas uniquement ceux de leur enfant, il y a un grand espace qui se crée dans la famille. Il y a quelque chose qui se libère, il y a une légèreté qui se crée. Et vous pourrez écouter les témoignages des filles qui sont rentrées dans le parcours Emotizen. Ça commence à partir de l'épisode 84. Donc il y a 84, c'est Alexandra qui commence à témoigner, et puis il y a Jeanne aussi, et Valsou, Mattel aussi, Mattel qui a témoigné sur ce programme aussi. Et au début, elles étaient épuisées pour la plupart de nourrir les besoins de tout le monde. Le conjoint, l'enfant numéro 1, l'enfant numéro 2, les beaux-enfants, l'appart du travail, les amis, la belle famille, les parents, les grands-parents. Parce que on est habitué, notamment en tant que femme, hein, s'il y a des hommes, coucou aussi à vous, mais on a été beaucoup élevé dans faire au mieux pour que les besoins des autres et que les émotions des autres soit au top, soit agréable. Et c'est bien pour la société, pour l'humanité, c'est super. Mais le dosage est parfois disproportionné. Une maman qui mettrait vraiment en priorité que les besoins des autres, ses enfants, son conjoint, son boulot, sa meilleure amie, sa petite voisine mamie, ses beaux-enfants, son ex, pour pas faire de vagues, pour pas être dérangeante. Hein, il y a vraiment un épisode qui s'appelle « Accepter de décevoir ». Et le 94 dont parle Joanne qui a dit que waouh, il y avait eu un tilt là sur accepter de décevoir. Moi j'ai eu ce tilt aussi il y a 2 ans. Je me suis dit, ah mais en fait je voulais décevoir personne. Je voulais pas décevoir mes enfants, je voulais pas décevoir mon conjoint, je voulais pas décevoir les parents d'élèves, ni mon équipe. Mais si, c'est normal en fait de décevoir. C'est normal de décevoir dans le sens où quand vous allez mettre vos priorités en disant mes besoins sont aussi importants que les besoins des autres, à horizontalité. Dans l'épisode 3, vous entendez cette notion d'horizontalité qui est centrale dans la communication non violente et qui est centrale aussi dans la communication tout court. Et quand j'entends que les besoins de mon enfant sont aussi importants que les miens, Ça ne veut pas dire que je me sacrifie, ça ne veut pas dire que je sacrifie mon enfant, ça veut dire que je vais organiser mon emploi du temps pour qu'il y ait des blocs de temps consacrés à la priorisation des besoins de mon enfant et des blocs de temps où je vais nourrir mes besoins urgents, prioritaires. Peut-être mon besoin de silence. Est-ce qu'une maman arrive à avoir du silence quand elle fait passer ses enfants toujours avant elle? Compliqué. Est-ce que vous arrivez à nourrir votre besoin de renouvellement, de défi, de challenge, d'expression, d'écoute? Peut-être que oui, vous avez déjà trouvé des stratégies pour les nourrir. Et puis, parfois, devant l'ampleur du dossier, on se dit « bon, on verra plus tard ». Mais « on verra plus tard », ça entame votre batterie, ça entame votre énergie. Et moins vous avez d'énergie au quotidien pour vos besoins de maman, et moins vous avez aussi d'énergie pour être vigilante au fait de ne pas reporter vos émotions désagréables sur le comportement de vos enfants. Donc de couper ce fil entre « c'est le comportement de mon enfant qui me rend dans cet état inconfortable » est beaucoup plus facile quand on conscientise ses besoins à nous et quand on va nourrir nos besoins à nous pour apaiser nos flammes désagréables. Donc c'est vraiment un cycle autour de ces trois outils principaux. Je vous souhaite de prendre soin de vos besoins. Je vous souhaite vraiment une très belle exploration de vos émotions dans votre cheminée des émotions et puis de votre arc-en-ciel des besoins, épisode 7, si vous avez envie de connaître tous vos besoins et toutes vos rayures. Vous allez voir, c'est vraiment un autre continent. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.